direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une expérience collective qui doit être assez jubilatoire. La création d'un opéra. Je dis bien la création, la caractérisation des personnages de A à Z, l'écriture du livret et de la musique, de la première à la dernière note, et tout le processus qui aboutit à donner chair à un spectacle vivant qui déclenche les émotions et, si possible, les applaudissements des spectateurs. C'est dans les coulisses d'une création mondiale que nous vous emmenons aujourd'hui avec nos trois invités, le compositeur italien Francesco Filidei, co-auteur de cet opéra en deux actes avec le metteur en scène et librettiste Joël Pomera, la soprano Chloé Brio et le chef d'orchestre argentin Emilio Pomarico, qui dirige pour cette production l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'Inondation est encore à l'affiche de l'Opéra Comique à Paris demain, mardi et jeudi prochain, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on commence avec vous, Emilio Pomarico. La première, c'était vendredi soir. C'est donc la première fois que les spectateurs ont pu entendre cet opéra. C'est toujours un moment fort, une première a fortiori quand il s'agit d'une véritable création. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez mis le pied dans la fosse d'orchestre en sentant comme ça les spectateurs autour de vous?
Tout simplement le plaisir et l'émotion que j'éprouve chaque fois qui je monte sur le podium, surtout quand il y a une œuvre totalement nouvelle, une première à créer.
C'est un stress supplémentaire ?
Non, c'est pas un stress. Je pense que c'est plutôt un sentiment de responsabilité, parce que on présente quelque chose que de ces moments, il va être et entre dans l'histoire. Donc, si on a affaire avec une grande pièce de musique, comme je pense que c'est le cas de l'Inondation, c'est quelque chose qui, ça vous donne un surplus peut-être de sentiment de responsabilité, mais une grande joie, un grand plaisir.
Mais pour vous, la première, justement, c'est plutôt un aboutissement, enfin, ça y est, on est arrivé, ou bien c'est plutôt le début d'une aventure nouvelle?
C'est toujours un aboutissement, bien sûr, parce que avec mes chanteurs, mes musiciens, on arrive au moment où on doit bien évidemment dire « bon, basta ». De ces moments-là, on commence vraiment à jouer, à chanter, à trouver toutes les relations internes de l'œuvre en face d'un public qui vous écoute. Et un début, parce que toutes les représentations, tous ce qu'on va jouer après cette première, c'est quand même une progression. On comprend de plus en plus, on comprend des choses, des liens dans l'œuvre qui se révèlent d'une façon, oui, je dirais, je me répète, émouvante.
Francesco Filidei, vous aussi, vous pourriez dire, à l'instar d'Emilio Pomarico, basta?
Ah non, je n'arrive pas vraiment. Je devrais, c'est ça, toute la problématique d'un compositeur, probablement, qui agit beaucoup en avance, normalement. Bon, il y en a qui terminent le jour avant et ils donnent au chanteur. Mais là, c'était pas le cas. On avait pratiquement la partition prête un an en avance. On avait déjà enregistré. Et tout le reste du temps, c'était plutôt de l'attente avec beaucoup de stress de ma part, parce que je suis une personne très très émotive et donc beaucoup de camomille aussi.
Alors cette œuvre, c'est une commande de l'Opéra Comique adressée au metteur en scène Joël Pomera. À la base, c'est la première fois qu'il crée ainsi un livret d'opéra original. Il avait déjà adapté plusieurs de ses pièces à l'opéra, parmi lesquelles Pinocchio avec vous d'ailleurs, Chloé Brio dans le rôle titre. Alors Pomera, on connaît sa façon de travailler, hein, donc avec un rôle très important dans ce qu'on appelle le travail au plateau. C'est un travail d'expérimentation en permanence, de création. On remet sans cesse comme ça l'ouvrage sur le métier. C'est une méthode dont on se dit instinctivement qu'elle n'est pas particulièrement adaptée sur le papier, en tout cas au monde de l'opéra. C'est quand même très singulier, sa façon de travailler.
Je ne sais pas si elle n'est pas adaptée. Moi, je pense que ça devrait être adapté, ce genre de méthode, justement à l'opéra. Mais en tout cas, c'est une méthode à laquelle on n'a pas l'habitude de se confronter. Mais c'est très enrichissant pour un interprète de rencontrer quelqu'un comme Joël Pomera.
Mais qu'est-ce que vous avez dû faire pour pouvoir vous adapter justement à cette façon de travailler? Si on remonte un tout petit peu en arrière à votre collaboration sur Pinocchio.
Ben, j'ai dû faire confiance. En fait, j'ai dû lâcher tout le cadre qu'on se met quand on est à l'opéra, parce que voilà, on rencontre des gens et on et on travaille avec leur manière de travailler et on se lance dedans. Joël arrive à l'opéra comme un peu nouveau et il propose sa méthode de travail et à nous interprètes de se lancer à fond dedans ou pas. Je pense que l'enjeu il est là, c'est de lui faire confiance ensuite et ensuite de se faire confiance pour avoir un travail abouti.
Comment s'est passée, Francesco Filidei, la rencontre entre l'écriture théâtrale de Joël Pommeret et l'écriture musicale qui est la vôtre? Est-ce que vos deux écritures étaient destinées à se rencontrer?
Ah ben, alors, au début, on s'est Mantei, le directeur de l'opéra comique, qui nous a mis en contact, parce que Joël, il avait écouté ma première opéra, Giordano Bruno, et donc il avait bien aimé, et il avait décidé de travailler avec moi. Et donc après, il m'a proposé plusieurs sujets, moi j'ai proposé d'autres sujets, on est tombé sur le sujet de l'inondation. Et à partir de là, bon, c'était un travail très enrichissant, je pense, pour les deux, même si les mondes desquels on appartient sont assez différents. Je veux dire que lui, c'est vraiment le théâtre français, autant que je puisse comprendre, et oui. Moi, c'est l'opéra italienne dedans. Et donc, c'est vrai que les enjeux sont assez différents, mais je trouve que, je pense, qu'on a réussi à trouver une synergie, quelque chose de spécial. Franchement, je pense que ces deux mondes se sont aidés à trouver une autre direction.
Mais alors, quand on se plonge dans le programme du spectacle, hein, qu'on nous distribue à l'entrée dans la salle, on peut être extrêmement surpris parce que vous avez quand même des mots extrêmement définitifs, Francesco Filidei. Vous dites, je vous cite, « L'opéra est une forme morte ». Vous dites aussi, « Ça m'intéresse de travailler sur le cadavre de l'opéra, d'essayer de le réanimer ». C'est très fort quand même.
Ah ben pour ça je suis assez convaincu. Il faut dire que l'opéra ça a été ce qui a été ensuite les films peut-être ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais retrouver la puissance, la force qu'elle avait au sein de la société en 1800 par exemple, quand Wagner il pouvait faire ce qu'il voulait, au Verdi en Italie c'était vraiment la patrie. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui est comme structure, comme forme, parce que aussi la détente auquel la société aujourd'hui n'est plus habituée, c'est inactuel. Et de travailler avec un instrument inactuel, je trouve que ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il garde une force qui, travailler dans l'actualité avec des moyens de l'actualité, n'a pas.
Des mouvements de la marée, et comment sont-ils?
Des mouvements de la marée,
et comment sont-ils?
Des mouvements de la marée, ils sont des galettes, ils sont des galettes, ils sont des galettes,
et aussi
obligés. Des mouvements de la marée, ils sont engendrés par les
forces,
engendrés par les forces, par les forces, par
les forces, comment?
Des forces,
je ne sais pas.
Non, des forces qui vont de la mer dans la mer et font monter la marée. C'est pas ça. C'est pas ça.
Je ne sais pas.
Quelques mesures de l'inondation, l'opéra de Francesco Filidei et Joël Pommeret, dirigé à l'Opéra Comique jusqu'à jeudi prochain par le chef italien et non pas argentin, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur, Emilio Pomarico, même si vous êtes né Emilio Pomarico à Buenos Aires, d'où ma confusion. Un extrait enregistré pendant la pré-générale du spectacle, comme d'ailleurs tous les autres extraits qu'on va diffuser dans cette émission d'ici la fin. Trois voix hein, dans cet extrait, il y a la voix de soprane de la femme, votre personnage, Chloé Brio, il y a la voix de baryton de l'homme, interprété par Boris Grapp, et puis celle de Norman Aoun, qui prête sa voix au personnage de la jeune fille, personnage doublement interprété, on va y revenir tout à l'heure. Mais ces trois personnages-là sont ceux qui sous-tendent finalement l'intrigue. L'homme et la femme forment un couple qui n'a pas d'enfant, un couple qui va accueillir chez lui cette jeune fille devenue orpheline et dont la présence dans l'appartement va tout changer, tout faire exploser, tout faire déborder d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre personnage, Chloé Brio, au début de l'œuvre? Comment est-elle?
Je pense que c'est une femme discrète, sensible, qui a du mal à s'exprimer et à assumer ce qu'elle ressent.
Une femme cadenassée qui ne veut pas montrer ce qu'elle est.
En fait, je crois qu'elle ne veut pas faudrait demander à Joëlle Pomera, mais je crois qu'elle, de ce que j'ai compris après un an de travail, c'est je crois qu'elle ne veut pas montrer qu'elle est faible parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et ça, ça la bouffe.
C'est le personnage central de la pièce. Elle ne veut pas montrer, c'est ce que vous expliquiez à l'instant, Chloé Briot. Et c'est vrai que c'est un personnage qu'on découvre presque dans le négatif. C'est-à-dire que, en fait, vous avez très très peu de textes, on entend très peu votre voix dans la première partie du spectacle. Le contraste est d'ailleurs très fort quand on l'entend, hein, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour une chanteuse lyrique de ne pas pouvoir s'exprimer avec sa voix ?
Mais non, au contraire, c'est génial. C'est génial. J'étais trop contente, en fait, quand j'ai lu le texte de Joël, je me priais et je me disais, putain, pourvu qu'il ait pas écrit beaucoup, beaucoup de textes. Parce que je voulais vraiment pouvoir m'exprimer justement autrement que par la voix. Et parce que ça m'intéresse de m'exprimer différemment. Pour moi, la voix, c'est juste un moyen d'expression. Et en fait, j'ai envie d'être sur scène. J'ai envie d'interpréter. J'ai pas forcément envie de chanter.
Donc vous êtes plus actrice que chanteuse ?
Ben non, parce qu'en vrai je suis chanteuse, mais en tout cas c'était le défi pour moi dans ce rôle-là, et justement c'est ce pourquoi j'ai voulu faire cet opéra, c'est que justement interpréter un rôle comme ça où on ne peut pas vraiment s'exprimer, ou en tout cas avec une méthode différente que celle à laquelle je suis habituée, il fallait que je bosse avec Joëlle Pomera.
Ça veut dire ça. Justement jouer le personnage en creux, dans les silences,
oui,
dans les déplacements.
Mais on devrait faire ça aussi quand on a une grosse partie à chanter finalement. Le corps, il n'est pas, il ne doit pas être à côté de la voix, tout doit s'imbriquer. Et si les chanteurs autour expriment des choses, parlent, chantent, ça a de l'impact sur mon personnage, même s'il est muet. Et tout ça, ça fait corps, et on est tous ensemble. Et le fait que je sois beaucoup dans l'écoute, principalement les trois quarts de l'œuvre, ça me donne beaucoup de matière à interpréter, et c'est ça qui m'intéressait.
Donc vous ne jouez pas votre personnage, vous jouez votre personnage par rapport aux autres.
Ben oui, enfin je crois que tous les interprètes devraient faire ça.
C'est évident, mais c'est pas si évident que ça, parce
oui,
que tous les chanteurs lyriques ne se comportent pas totalement de la même façon. Peut-être un peu plus dans votre génération à vous, mais dans l'ancienne génération.
Ben je sais pas, ils sont peut-être pas guidés par les bonnes personnes aussi. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui à l'opéra, c'est une question de rencontre avec des chefs d'orchestre, avec des compositeurs, avec des metteurs en scène. Alors les compositeurs, on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer, hein, voilà. Mais c'est ça qui est génial dans la création. Et c'est pareil avec les chefs d'orchestre. On rencontre des gens qui nous bousculent dans nos habitudes, et on ne devrait pas en avoir déjà, je pense, quand on est interprète, mais c'est un peu le cas. Et si on multiplie les rencontres qui choquent et qui nous bousculent, encore une fois, on peut découvrir des choses différentes de ce qu'on est capable de faire.
Alors cette fois-ci, vous avez donc pu rencontrer le compositeur, hein, en l'occurrence Francesco Filidei, qui est avec nous. Alors il y a effectivement toutes les émotions que Chloé Briot et les autres chanteurs expriment à travers leur voix en ce qui la concerne, pas beaucoup dans les deux tiers de la pièce, et à travers le corps, mais ces émotions-là, vous les transmettez aussi aux spectateurs à travers la musique, à travers l'écriture, que la musique qui reflète en quelque sorte le malaise, la vie intérieure de votre personnage. Est-ce que vous diriez que votre travail de compositeur, c'est de suggérer ou c'est de faire ressentir ? Où est-ce que vous placez le curseur dans la force justement de l'expressivité ?
Disons que quand je compose, je me mets dans une position aussi d'écoute. Donc je suis à la fois écrivant de musique, mais en même temps spectateur. Et j'essaie d'écrire ce que je voudrais écouter. C'est à la base. Alors parfois, dans cet opéra particulièrement, a été très dur, très difficile d'entrer dans la psychologie de certains personnages, comme, notamment celui de la femme.
Oui, parce que là, on est dans l'expressivité de ce qui est implicite.
Ouais. Bon, les personnages de l'homme, c'était pas difficile du tout. Pratiquement, Boris, qui est le chanteur qui interprète cette partie-là, bon, quand il se fâche, c'est moi qui se fâche. Je le vois très bien. C'est une montée très rapide avec beaucoup de colère. Mais ça, c'était automatique. Mais rentrer dans la psychologie de la femme, c'était tout un travail qui m'a pris énormément de temps.
Alors, comment avez-vous fait?
Ben, donc, c'est intéressant. Je l'ai tenu au début et c'est toujours dans un registre très, très grave. Et très, très forcé. Et ça, c'était parce que justement, je savais qu'il est avec cette ce système, à la fin, quand elle explosait, la tension avait été au maximum. C'est-à-dire, c'est vraiment une absence qui est sentie, et finalement, l'explosion finale, c'est libératoire, vraiment encore plus par rapport à s'il avait été tous les temps.
Mais alors, justement, on évoquait le travail collectif, la façon de travailler de Joël Pombrat. Dans quelle mesure, Chloé Briot, dans votre travail au quotidien, vos idées ont-elles contribué à forger le personnage, à forger l'expression de ses émotions et de ses sentiments?
Je pense qu'avec Joël, on a beaucoup discuté. Ça permet de tout de suite évacuer les doutes, parfois les non-dits qu'on peut avoir quand on travaille avec des gens et pouvoir dire les choses et dire bon, ça, cette phrase-là, je la sens pas trop, je suis pas à l'aise avec ça ou avec cette action comme je suis pas mal dans l'écoute au départ. Et aussi beaucoup dans l'écoute de la musique de Francesco, parce que en réalité, je n'écoute pas que les chanteurs, j'écoute aussi beaucoup ce qui se passe à l'orchestre et tout ça, ça m'imprègne, etc. Je sais pas, il faut, j'en sais rien, je sais même pas si j'ai eu une seule idée.
Mais c'est plus au niveau de la prosodie, au niveau des mots, au niveau de la prononciation, au niveau de la couleur que vous donnez aux mots. Là, je parle surtout de la dernière partie du spectacle.
Oui, j'imagine. Après, c'est des choses que je fais
instinctivement.
Je sais pas si c'est instinctif. En tout cas, c'est spontané. Je voulais pas me regarder faire parce que ça, si je commence à me regarder faire, c'est nul. Et je voulais pouvoir être juste dans le regard de et Emilio, et Francesco, et Joël. Et pour moi, c'est les trois regards qui m'importaient. Et aussi mes collègues chanteurs. Et voilà, je fais. Et on me dit alors si c'est effectif ou pas. J'ai pas envie de me regarder, de dire oui, je pense que ce serait bien que je fasse ça. Évidemment que je pense des choses, mais je crois que c'est pas ma place en tant qu'interprète. Il faut juste que je sois sous le regard des personnes qui ont, eux, un regard extérieur. Et alors, je peux spontanément faire des choses, et ça fonctionne ou ça fonctionne pas, c'est à eux de me le dire.
Donc, c'est l'écoute hein, qui permet de faire progresser le travail, Francesco Fili.
Oui, absolument. Il faut dire aussi qu'on a trois personnalités assez différentes, moi, Emilio et Pomerat, et parfois, on a des exigences différentes. Par exemple, dans le déplacement des chanteurs, c'est difficile. On avait des problématiques, par exemple, sur un duo en particulier, pour lesquels moi, je voulais avoir les chanteurs unis pour fusionner. Et lui, il avait une nécessité de faire déplacer Chloé pour aller prendre et voir un fantôme, etc. Donc, finalement, on a trouvé, avec une discussion, c'est comme il faut, disons, je crois que c'est un bon équilibre entre les différentes exigences.
Et quel est le rôle du chef d'orchestre Emilio Pomarico, justement, entre le compositeur et le metteur en scène?
Le pauvre.
Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pris entre l'arbre et l'écorce, alors, visiblement?
Non, parce que j'ai une partition. Et quand la partition, si vous avez les temps, si vous prenez les temps de la lire et de la comprendre jusqu'au bout, il vous dit pas mal de choses sur la ligne qui, normalement, on appelle l'interprétation. Mais là, c'est quelque chose, avec la musique de Francesco, c'est quelque chose d'essentiel, je dirais, parce que si vous ne comprenez pas, dans les cas de cet opéra spécialement, j'ai déjà joué la musique de Francesco, instrumentale que musique instrumentale, et dans le cas de cet opéra, c'est vraiment spécial, je dirais, parce que ce qu'il a opéré, je suis pas, il faut ouvrir une parenthèse, je suis pas d'accord sur le fait que l'opéra c'est quelque chose, une manifestation qui est morte. Non, c'est pas ça. Le fait, c'est que comme on entend, on comprend l'opéra aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec une musée. Et la musique et les musées, ils sont deux choses qui ne vont pas d'accord, selon mon point de vue.
La musique, il faut revivifier.
Non, c'est pas nécessaire de revivifier. La musique, ça se passe les moments où on la joue, on la fait. Vous jouez 10 fois la symphonie en sol mineur de Mozart, et c'est pas que vous ne faites pas du répertoire, vous faites la symphonie en sol mineur de Mozart. C'est un autre contemporain, parce que c'est nous qui on la comprend, et c'est à nous de prendre la responsabilité de comprendre ce qui se passe dedans. La musique, c'est de la musique. Je déteste les termes de musique baroque, contemporaine, romantique. C'est vraiment une façon un peu simpliste de résoudre le problème du point de vue de la culture. Qu'est-ce que c'est la musique dans notre monde aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la relation entre la musique qu'on appelle classique et la société là-dehors? Or, je trouve que Francesco, il a opéré quelque chose de vraiment très contemporain, parce que il était capable de mettre ses mains dans la tradition de l'opéra, le courage de composer un opéra d'un 16 scènes, deux interludes. C'est comme c'est poser la question de la forme d'un opéra de 19e siècle. Là, il a opéré quelque chose de que je trouve vraiment extraordinaire, parce que on peut pas ne pas se relater à notre passé culturellement, et il a lui donné la possibilité de se projeter dans le futur, parce que la dialectique, et j'arrête parce que autrement c'est vraiment un discours passionnant.
Oh, vas-y.
Mais la dialectique qu'il y a entre la façon qu'il a réussi de composer pour les voix et ce qu'il y a dans la fosse, c'est une dialectique extraordinaire aujourd'hui. Parce que dans la fosse, on a tout ce qui est le langage de la musique contemporaine d'aujourd'hui, qu'il ne parle pas comme musique contemporaine, il parle comme de la musique d'une puissance extraordinaire. Par contre, les chanteurs sur scène, ils doivent pas faire des choses hors de ce qu'on comprend un chanteur lyrique, il peut faire normalement. Et là, au moment où les deux choses ils se rencontrent, c'est-à-dire pendant qu'on fait cette musique, on se rend compte que on a fait un pas significatif dans le futur, dans le fait de dire que non, l'opéra c'est quelque chose qu'on peut encore faire. Et on la fera, je suis sûr. Il y a un changement dans les compositeurs contemporains, dans les compositeurs surtout de l'âge de la génération ouais. de Francesco, qui comprend qu'il a, il y a un potentiel d'expression énorme.
Alors là, Chloé Brio, c'est une scène clé, hein, c'est la scène 14, c'est un peu le moment de bascule, le moment où votre personnage se libère. On a un peu l'impression qu'il y a une pression incroyable là, que vous avez accumulée, enfin vous et votre personnage, trop de tensions non dites, ça vous demande physiquement un effort considérable. On se dit, mais il y a une nécessité de projeter là comme ça tout d'un coup, alors que vous aviez tout gardé en vous pendant le reste de la représentation.
Ouais, je m'en rends pas trop compte quand je suis à l'intérieur, parce que je suis à l'intérieur d'un parcours. Donc il y a des petits détails auxquels je pense quand j'arrive à la scène 14, qui sont purement des détails de flip, de trucs, pourvu que j'oublie pas de fermer la porte, voilà, des trucs un peu comme ça. Mais non, j'y pense pas trop physiquement. Par exemple, par rapport à un personnage comme Pinocchio que j'ai fait il y a 2 ans à Aix, où c'était un personnage qui était tout le temps dans la violence, dans l'extrême expression, etc. J'ai beaucoup souffert physiquement. Ici, le parcours est tellement de ce personnage-là, il est tellement bien fait, j'allais dire, c'est un peu bête de dire ça, mais il est tellement dans la progression, normalement. Je veux dire, si je travaille bien, quand je suis sur scène, normalement, la progression doit être linéaire. Et donc, c'est pas tellement violent physiquement ce qui se passe, c'est un relâchement hyper agréable finalement, parce que justement, j'ai contenu beaucoup. Donc là, je lâche les chevaux, je peux y aller mais ça va.
Mais cette montée de tension qui est effectivement extrêmement progressive, on la ressent aussi dans la musique, Emilio Pomarico. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de l'œuvre, on sent petit à petit une tension monter, s'installer, même pour le spectateur. Parfois, ça peut en devenir un peu étouffant.
Et je pense qu'il y a là une compréhension du point de vue psychologique de la part de Francesco de la nécessité d'écrire une musique qui soit absolument à l'auteur de la tension qu'il y a dans le libretto, dans l'histoire, mais surtout dans le libretto de Joël, parce que ça c'est très important à souligner, c'est le fait que ce qu'il a opéré Joël, c'est extraordinaire du point de vue de l'économie du texte. Et c'est cette économie du texte, ça rend tout ce qu'il y a comme composante psychologique absolument extraordinaire, d'une dimension énorme dans la 14e scène, qui c'est magnifique, je dois dire. Vous savez, le principe de compositionnel de Francesco, c'était si simple. C'est l'ostinato, tout simplement. C'est un ostinato. On est là et il y a cette figure musicale qui devient de plus en plus angoissante, bien évidemment, et puissante. Et là, c'est où on comprend ce que ça veut dire pour une femme, être une femme dans des schémas.
Dans un carcan, dans un schéma extrêmement contraint.
Schéma, excusez-moi, en français, oui, bien évidemment. Et l'acceptation du rôle social, cette femme qui est mariée depuis 14 ans, mais
qui n'a pas d'enfant. Enfant,
n'a pas d'enfant. Et qui commence à se poser des questions sur le fait que son mari, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il pense? Je ne sais pas. Il n'est pas là, il boit peut-être. La voisin qui devient le moyen pour cette femme de se poser des questions, de donner une forme verbale assez douce à ces questions.
Mais alors justement, cette tension-là, effectivement très forte, Francesco Filidei, comment est-ce que vous l'installez à travers votre musique? On a un peu l'impression de quelque chose de très ténu, et puis d'une faille qui est un petit peu comme celle d'un tremblement de terre, finalement, ou d'une inondation. Ouais. Bah, voilà, déjà, augmente au fur et à mesure. Le niveau de l'eau monte, mais la faille s'agrandit.
De base, quand je compose, ou quand un compositeur compose, il improvise. C'est un geste d'improvisation. Et les voix aussi étaient pratiquement improvisées, et elles sont restées pareilles. Mais donc, c'est qu'on a en plus la possibilité, un compositeur par rapport à quelqu'un qui improvise librement, c'est qu'on peut revenir sur le temps. Donc parfois, quand on est dans l'improvisation, on est arrivé dans un point où on se bloque, on peut revenir et repartir, lire ce qu'on a fait et improviser. Donc normalement, quand je compose, c'est assez simple, j'essaie de ne pas bouger. Sauf si je n'ai pas l'exigence, dans une musique qui très souvent est un peu minimaliste. Et après, c'est aussi une question d'écoute. Ça te permet de t'installer dans une situation émotive et après d'agir sur ça. Parce qu'on ne peut pas détruire, on ne peut pas remettre en cause si on n'a pas d'abord construit. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'utilise ce que j'appelle les cadavres de l'opéra, mais en tout cas, les carcans de l'opéra. Et là, je vais être encore plus explicite, je n'aurais pas écrit le même genre de musique si ça n'avait pas été dans la salle Favart ou dans un théâtre d'opéra. L'idée là était vraiment de rentrer dans l'histoire de la musique qui a ce lieu. Ces lieux qui, comme je disais, donnent son mieux pour une certaine typologie de musique, donc l'opéra 1800, etc. Parce qu'il était conçu aussi pour ça. Et après, re-questionner par l'intérieur de la structure, la forme.
Alors justement, c'est vrai que la salle Favart, donc la salle de l'Opéra Comique, c'est là qu'a été créée Péléas et Mélisande de Debussy. Et on se dit à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Emilio Pomarico, qu'il y a un petit côté debussiste dans la musique de Francesco Filidei.
Oui et non. Ah. Mais oui, certainement il y a des suggestions, mais qu'est des suggestions? Je veux vous dire que dans cette salle, il a été créé aussi Falstaff. La première française de Falstaff a eu lieu à la salle Favart, à l'Opéra Comique. Donc, c'est un lieu bien chargé,
mythique, oui,
de styles, d'histoire et des styles
extrêmement différents.
Extrêmement différents.
Sur Debussy, peut-être.
Oui, oui, je voulais dire aussi Carmen et aussi Butterfly dans la version qu'on écoute aujourd'hui a été créée à la salle Favart. Non, je voulais dire par rapport au desboussisme du chant. Alors, si j'écris comme ça, c'est aussi dû au fait que les librettos de Pomera n'ont pas beaucoup de mots. Donc, j'ai utilisé pas beaucoup d'intervalles aussi. Et je me suis dit, dans un texte comme ça, pourquoi aller chercher ce qu'on fait d'habitude en musique contemporaine, plus, disons, avec des intervalles très, très éloignés, des sauts, des chants. Je me suis dit, bon, là, il faut être plus attaché à cette simplicité du mot. Et alors, je dois dire quelque chose que ça m'a intrigué, disons, parce que parfois, on compose, on ne sait pas trop comment, disons. Et après, quand on revient, on écoute, on comprend des choses. Et là, tous les chants, en fait, sont générés par un petit coucou du début. On a les sons d'une pendule au début et il fait une ta-ta, ta-ta. Et à partir de cet intervalle de tierce mineure, après, ça se génère tout. Les chants qui ouvrent et ferment l'opéra, mais aussi tous les intervalles qui normalement tournent autour du dialogue.
Oui, la question du temps est vraiment centrale chez vous.
Ouais, oui, absolument. Mais parce que les temps, la musique nous intéresse pourquoi? Parce qu'elle colore les temps qui passent. Nous, on vit et on meurt. Et donc, ça, c'est cette problématique qu'on a. Pourquoi on est là? Et la musique nous aide à nous voir de loin, voir une maquette de notre vie, et essayer de comprendre mieux quelque chose, comment on va mourir, comment on est né, grâce au fait qu'il y a une pièce qui naît, qui meurt.
Il pense peut-être que je ne le sais pas, et que tout ça est normal, tout ça est-il normal, dis-moi!
L'opéra de Francesco Filidei et Joël Pomera, création à découvrir jusqu'à jeudi à l'Opéra Comique à Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Emilio Pomarico. Alors la musique, on parlait de Debussy tout à l'heure, c'est vrai qu'elle suggère, elle fait entendre les bruits de l'immeuble, mais aussi les éléments que sont le vent, l'air, l'eau. On sent le changement de temps au sens chronologique, mais aussi au niveau météo presque d'une certaine façon. Hein. On sent le changement des saisons. Ça, Emilio Pomarico, c'est le rôle de l'orchestre. Quoi. On est aussi bien dans la suggestion que dans la narration, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Et c'était très difficile de travailler l'opéra, la préparation de l'opéra, sans l'orchestre. On n'avait qu'une réduction chant et piano, et quand j'ai reçu la partition, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va jouer de ce qu'il y a dans la partition avec un piano? Et en fait, j'ai plusieurs fois dit à mes chanteurs, à Joël, regardez, quand l'orchestre va être là, vous allez avoir une sensation totalement différente. C'est la sensation, la perception, exactement de ce qui parlait Francesco, la perception de temps, du temps, tout d'un coup, ça change. Parce que il y a une inondation sonore dans les théâtres avec une violence parfois dictée par l'incroyable volume de son qui on est capable de exprimer. Ça, c'est le cas du deuxième intermezzo, pour exemple. Mais aussi par l'absence. de cette sonorité. Je veux dire que la subtilité parfois des moments de suspension dans l'opéra qui, à mon avis, sont absolument merveilleux et ils sont faits par un rien, par de tubes électriques.
Oui, alors justement, alors je vous arrête parce que je suis allé voir dans le livret la nomenclature de l'orchestre. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il y a vraiment une palette d'instruments extrêmement large. Il y a évidemment les bois et les cuivres avec plusieurs types de flûtes, clarinettes, cors, trompettes, trombones et tubas. Les musiciens d'ailleurs souvent jouent de plusieurs instruments. Il y a les cordes, évidemment, piano, célesta, harpe, accordéon, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Et puis il y a aussi les percussions. Et les percussions, vraiment, les pupitres sont extrêmement développées. Voici le détail tel qu'on le trouve dans le programme, qui nous propose donc une très complète nomenclature de l'orchestre.
Percussion 1.
Archer de contrebasse, deux verres accordés en ré et la, boîte à musique fixée sur caronne.
Papier de verre, jeu de crotal, fouet.
Glockenspiel, guiro, casou, plaque tonnerre, carillon avant, papier à bulle.
Jouet queener, sirène à bouche, tambourin.
Taser box, timbale avec éponge, cymbale renversée et balle rebondissante. Gaine électrique, triangle, vibraslap, langue de belle-mère.
Percussion 2.
Trois petites cloches des Alpes, archet de contrebasse, carillon en bambou.
Bloc de polystyrène, buzzing bow, boîte à musique fixée sur caronne. Papier de verre casserole, fouet, casou.
Tambour d'océan, caillou, pompe à vélo.
Couvert de table, papier bulle, à peau d'oiseau, rossignol. Carillon de coquillage, cinq temples blocks, tuyau harmonique en mi et la.
Gaine électrique, tambour à friction, langue de belle-mère.
Percussion 3.
Bâton de pluie, verre accordé en mi, bloc de polystyrène, deux bongos, boîte à musique fixée sur caronne, papier de verre.
Crotal, fouet, grosse caisse.
Guiro, maraca, couvert de table. Grande cymbale, jouet queener, à peau d'oiseau, rossignol.
Crécelle, tom-tom grave, triangle.
Gaine électrique, tuyau harmonique en mi, vibra slap, xylophone, langue de belle-mère.
Percussion 4. Côté jardin.
Archer de contrebasse, bloc de polystyrène, cloche tubulaire.
Caisse claire, crotal, flûte à coulisses.
Sifflet de police, trois furins, maraca. Tambour d'océan, petite cymbale, assiette en céramique.
Caillou, couvert de table, papier bulle.
À peau d'oiseau, jet, grive, rossignol, tourterelle. Six boîtes à meux, sirène à bouche, grand ressort de suspension. Gaine électrique, tambour à friction, langue de belle-mère.
Percussionniste 5, côté court.
Archet de contrebasse, bloc de polystyrène, klaxon à trompe. Crotal, flûte à coulisses, trois furins.
Cloche plaque, rugissement de lion, machine avant.
Maraca, tambour d'océan, cymbale. Assiette en céramique, caillou, couvert de table.
Papier bulle, à peau d'oiseau, canard, coucou, grive, rossignol, tourterelle, bol rein chinois.
Six boîtes à meux, sirène à bouche, petit ressort de suspension. Tam-tam, gaine électrique, tambour à friction.
Waterphone, langue de belle-mère.
Bon, c'est absolument impressionnant, on n'a pas compté combien il y en a, mais vous me disiez, Emilio Pomarico, qu'on en a peut-être oublié un.
Oui, les souffles des musiciens.
Le souffle des musiciens,
et
effectivement.
Et qui c'est quelque chose de si important pour toute la fin de l'opéra, ouais. Pas seulement la fin, mais dans la fin de l'opéra, les souffles des musiciens, ça nous dit tout de ce qui reste de quelque chose qui s'est passé si puissante du point de vue du drame, et ça ne reste que le souffle, la souffrance. Oui,
pour moi, c'est la véritable inondation.
Alors justement, Francesco Filidei, expliquez-nous quand même, parce que c'est assez impressionnant la nomenclature de l'orchestre. Comment est-ce que vous sont venus tous ces instruments, une pompe à vélo, une langue de belle-mère? Il y a beaucoup de langues de belle-mère, vous aimez beaucoup ça visiblement, le taser aussi. Hein, oui. Comment vous avez construit tout ça?
Eh ben, disons que c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai, depuis le début, développé tout un langage qui est, c'est d'abord avec des, disons, ce qu'on appelle des jeux artificiels, comment dire, spéciaux, traitement des instruments.
Oui, mais bon. Francesco, il est un compositeur de l'inharmonique. Je m'explique, hein. C'est pas une négation de l'harmonique, l'inharmonique. Non. C'est tout simplement, agrandir le champ de possibilités qu'un instrument, il a. Et dans les cas de la percussion, je me souviens bien quand je fais la première de son magnifique pièce pour orchestre, Fiori di Fiori, une magnifique pièce. Et à la fin, il m'a dit, tu sais, c'est tout simplement tous les bruits qu'il y a un vieux organe,
orgue,
il commence à se mettre en route.
Parce que vous êtes organiste, oui, aussi à la base, Francesco Fili.
Donc, ce que je voulais dire qui est important, c'est que la vraie inondation, ça arrive dans la fosse, notamment à la fin, quand la femme avoue son meurtre, l'orchestre commence à respirer, il commence aussi à avoir des claquements des doigts, des sons de salive, toute une série de sons. Il y a aussi des mains frappées, et cette activité, c'est un peu l'ectoplasme qui se libère finalement de la psychologie de la femme, et elle est libre de nager dans la fosse. Et ça, pour moi, c'était vraiment ce que je disais, de repenser à l'intérieur la forme classique de l'opéra.
Chloé Brio, vous êtes venue à la musique par les percussions.
Ouais.
Justement, quel regard, ou plutôt quelle oreille est-ce que vous portez sur le travail musical de Francesco Filidei?
Ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, quand on est sur le plateau, on n'entend pas grand-chose, malheureusement. Donc, en ayant travaillé justement avec juste le piano et Emilio, on s'est un peu inventé des choses. Enfin, je sais pas ce que les chanteurs se disent, mais en tout cas, moi, je me suis inventé plein de trucs au moment où je jouais, et qu'il n'y avait pas forcément toute cette densité musicale. Mais c'est génial. En fait, je l'écoute et j'apprends juste en fait ce qui se passe là maintenant parce que Francesco en parle. Mais je trouve ça absolument génial d'utiliser tout ça, parce qu'effectivement, oui. Pour moi, les percussions, c'est un truc qui est très organique parce que voilà, c'est animal. Et moi, je suis venue à la musique comme ça, donc je pense que je suis un peu comme ça aussi. Et c'est cool. Je suis contente de savoir qu'il se passe ça pendant la scène de la folie, parce que c'est et après, c'est que un instrument, comme un chanteur, il a plein de possibilités de s'exprimer, et c'est pas que souffler ou toucher des cordes, voilà, c'est plein de choses. Et les percussions, c'est tellement divers que...
Mais il y a 5 percussionnistes dans l'orchestre, mais il y en a 2 qui sont perchés sur les loges latérales. C'est un problème de place ou il y a d'autres raisons?
C'est une histoire, parce que moi, j'ai dû composer, disons, l'opéra 2 fois. La première fois, j'ai composé, il y avait un piano dans la fosse, il y avait plus de violon en plus, etc. Il y avait 4 percussions. Et après, sans les savoir, ils ont fait des travaux à la salle Favart pour la air condition.
La conditionnée, oui.
Et finalement, ils ont bouché certains endroits où j'avais placé des percussions. Donc, j'ai dû mettre notamment une des percussions dans une loge. Et en conséquence, je ne pouvais pas avoir l'autre loge, disons, vide. Je devais faire un effet stéréo. Et donc là, j'ai dû repenser toute la structure par rapport à ça.
Alors justement, il y a aussi la structure qui se trouve sur la scène, sur le plateau de la salle Favart. Donc cet immeuble à 3 niveaux, ça ressemble un petit peu, pour que les auditeurs puissent bien imaginer, un peu une maison de poupée. On voit comme ça les personnages se mouvoir à leur étage respectif. Il y a 3 niveaux. Vous êtes, vous, Chloé Brio, avec votre mari au rez-de-chaussée. Donc il y a 2 étages au-dessus. Comment est-ce que vous avez travaillé les déplacements, Chloé Brio? Parce qu'on a vraiment l'impression, oui, je parlais de la maison de poupée, mais on a vraiment presque l'impression, en plus il y a pas mal de tout un jeu sur la lumière, il y a tout un travail au niveau des ombres chinoises aussi, également. C'est une chorégraphie?
Oui, je pense que, oui, c'est sûr. En fait, ce qui était le défi, c'était de pouvoir faire vivre chaque niveau et que ce soit en corrélation avec le drame qui se passait. Donc, faire des highlights là où le drame se passe.
Donc, focaliser.
Focaliser, voilà, pardon. Et aussi, ne pas faire mourir ce qui se passe au-dessus, parce qu'il se passe des choses. Le drame qui se joue au rez-de-chaussée existe aussi parce que il y a de la vie au-dessus, et parce que chacun va à l'étage de l'autre. Il y a aussi un truc un peu on s'immisce un peu dans la vie intime en rentrant chez les autres.
C'est la vie quotidienne.
Et c'est la vie quotidienne de quand on habite dans un immeuble, par exemple.
Ce qui correspond aussi aux sonorités développées par l'orchestre avec les différents instruments et les percussions qu'on évoquait tout à l'heure.
Donc les déplacements, c'est naturellement que d'abord, ça doit être de la vraie vie.
Elle fait beaucoup la vaisselle, elle fait beaucoup de repassage aussi à votre personne.
Mais moi aussi, dans la vraie vie.
Mais j'en doutais pas une seconde.
Mais
c'est pas réservé aux femmes.
Non, mais oui, enfin, fort heureusement. Mais au début, c'était difficile de trouver le concret du quotidien. Ça, on a beaucoup travaillé ça avec Joël il y a quelques mois.
Plus que les concrets, de ne faire apparaître ces concrets un peu stylisés, un peu hors de la normalité. Ouais. Je pense que Joël, il a voulu bien trouver tous les gestes, tous
en
les
tout cas,
lieux.
La, oui, en tout cas, la première couche, c'était le concret. Parce que Joël, il travaille par couches successives. Et d'abord, il fallait trouver le concret, le quotidien, quelque chose de simple, de un peu brut et tout ça. Moi, j'avais très très peur de en jouant un rôle de femme comme ça. D'abord, parce que je suis pas trop habituée, parce que je joue quand même beaucoup des rôles de garçon. J'avais peur de d'être trop dans la séduction, dans le corps un peu un peu mou, etc. J'avais très très peur de ça. Donc on est d'abord parti sur quelque chose de très concret, très brut. Et puis au fur et à mesure, parce que mon parcours se faisait, j'ai rajouté certainement de la souplesse dans le geste, et aussi parce que je suis une femme amoureuse. Et ça doit transpirer dans le corps, dans les mouvements. Et voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Une femme amoureuse est peut-être aussi un petit peu jalouse de la jeune fille. Alors on va pas tout révéler. Alors la jeune fille, c'est un personnage double, hein. Il y a une très jeune comédienne, Cypriane Gardin, et puis il y a une chanteuse pour la partie chantée, Norma Naoun. La première fait un peu de playback, hein, pendant que l'autre chante. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, Francesco Filidei, avec Joël Pomera, dédoubler ce personnage-là?
C'était notamment une exigence de Joël de faire ça, parce que quand au début on a commencé à travailler, effectivement, on s'est posé tout de suite le problème de ce personnage, et on a essayé aussi d'avoir des voix enfantines, donc vraiment des fillettes, mais finalement, ce que j'aimerais aimer faire avec la voix était assez développé pour pouvoir tenir avec une voix blanche, comme en Italie on dit voce bianca.
Oui. Mais pourquoi justement deux personnages? Parce que vous auriez pu choisir une jeune soprane avec une voix plutôt juvénile, non?
C'était une question, j'imagine, du point de vue visuel, une nécessité particulière, qui d'ailleurs, je trouve, peut marcher très très bien, marche très bien grâce au fait qu'on a cette fantôme.
Joël, il a été vraiment catégorique de ce point de vue. Il a dit, pour moi, le visuel, c'était si important, je ne pouvais même pas accepter une jeune fille de 17 ans. J'avais besoin d'avoir sur scène une jeune fille de entre 14 et 13 ans, donc un physique très bien typé, non? Et là, je pense que il n'y avait pas d'autre solution. Ouais.
Mais ce qui est intéressant par là, c'est que grâce à ces faits-là, on a pensé d'avoir des enfants vrais pour des parties plus petites.
Voilà, pour la famille qui habite à l'étage au-dessus. Oui.
Ça s'est développé comme ça, en fait. On est parti de ces problématiques du rôle de la jeune femme, elle est devenue soprano, après mezza, tout ça. Toutes les voix se sont construites autour de ça, jusqu'aux enfants qu'on a dans le deuxième étage.
Francesco Filidei, on arrive à la fin de cette émission. On expliquait tout à l'heure avec Emilio Pomarico l'importance du jeu, l'importance de la représentation en direct. Hein, il disait l'important, c'est pas d'entrer dans le répertoire. Mais, donc ça veut dire que c'est pas du tout votre objectif. Vous n'espérez pas que cet opéra soit joué par les générations futures?
Je crois que chaque compositeur espère ça. On a les droits d'espérer, mais après, bon, on vit ce qu'on vit, et on espère de l'écouter combien on peut, et pour l'instant, on a déjà pas mal de reprises, et on est content avec ça, déjà.
Voilà, donc le rendez-vous est pris, en tout cas, donc jusqu'à jeudi soir à l'Opéra Comique à Paris, ensuite à l'Opéra de Rennes, les 15, 16 et 18 janvier 2020, et à l'Opéra de Nantes, les 29, 30 janvier, ainsi que les 1er et 2 février 2020. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir. Merci. Bravo aux gagnants du jeu de VMDN de vendredi dernier, Daouda Mohamoudou de Douala au Cameroun, Josué Funga de Kinshasa et Louison Magueni de Goma, également en République démocratique du Congo. Ils recevront tous un album dédicacé de Manu Dibango. Dans un instant, le journal sur RFI, à demain avec la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop pour le film Atlantique qui sera après-demain sur les écrans français, et vous m'en direz des nouvelles.